C'est une exclusivité mondiale, une exclusivité galactique, intergalactique qu'on vous offre à présent. Vous allez répondre à une question fondamentale qu'on se pose parfois, Uma Camis. La vie a-t-elle un sens?
Eh oui, je vais répondre à cette question fondamentale. Et cette réponse est oui, la vie a un sens. Et quelle que soit la façon dont on la regarde, on trouve un sens au monde du vivant. Alors bien sûr, nous sommes dans une émission de science.
Oui.
Et bien sûr, le mot sens ne fait pas référence à la signification, mais à la direction, à l'orientation et à la position.
C'est ce sens-là, donc.
Exactement. Car la vie, les organismes vivants, en particulier les animaux, ont un ou plusieurs axes, une polarité, une symétrie, et aussi un haut, un bas, si c'est pas un avant et un arrière. Et donc, encore mieux, la vie n'a pas qu'un seul sens, elle a plusieurs sens, Stéphane. Et je vous propose donc de découvrir ces sens plus ou moins visibles, mais qui sont essentiels au bon fonctionnement du vivant. Alors, tout commence dans le monde de la chimie. Les atomes s'arrangent en molécules. Et les arrangements de ces atomes sont très importants en biologie. Katharina Fromm, professeure de chimie à l'Université de Fribourg.
Il y a des molécules qui ont une certaine directionnalité, qui peuvent tourner aussi le plan de la lumière, par exemple. On appelle ces molécules-là des molécules chirales. Et ça, c'est très important aussi dans la biologie, par exemple. Donc, c'est une molécule qui est faite de plusieurs atomes, où il y a un atome qui a, par exemple, quatre voisins. Et ces voisins sont arrangés de manière tétraédrique, donc une pyramide, et où vous avez une molécule qui est l'image miroir de l'autre. Alors on peut s'imaginer ça comme nos deux mains. Si vous essayez de superposer les deux mains l'une sur l'autre, ça ne va pas aller. Vous allez toujours avoir des problèmes avec le pouce qui se retrouve sur le petit doigt, par exemple. Alors que si vous mettez une main contre l'autre, donc vous créez quasiment une image miroir de la main gauche par rapport à la main droite, vous allez effectivement trouver que les deux mains sont des images miroirs l'une par rapport à l'autre.
Et ça, ça s'appelle la chiralité. Est-ce que ça a une importance dans le monde du vivant?
Donc ça, c'est effectivement la chiralité. Et c'est même très important dans le monde du vivant. Donc vous avez effectivement des molécules dans notre corps, par exemple, qui ont une certaine chiralité et non pas une autre. Et qui sont importants pour le bon fonctionnement dans notre corps. Si on prend par exemple les protéines, elles sont souvent formées d'acides aminés du type L, donc d'une certaine chiralité. Et dans notre corps, on peut très bien s'imaginer, dans une cellule par exemple, que vous avez beaucoup de molécules qui interagissent les unes avec les autres pour un bon fonctionnement de la cellule. Et donc, s'il y a une molécule qui ne joue pas, parce qu'elle n'a pas la bonne forme, par exemple, eh bien, ça va déranger, en fait, le fonctionnement de la cellule. Et ça, on peut s'imaginer, c'est comme une vis, en quelque sorte, que vous essayez de visser. Donc, si vous tournez dans le mauvais sens, la vis, elle ne va pas tenir, elle ne va pas pouvoir interagir avec la matière où elle est censée tenir dedans. Donc, c'est un peu la même chose. Ou alors, un autre exemple qu'on peut s'imaginer, c'est que lorsque vous donnez la main à quelqu'un d'autre en face, vous donnez toujours la main droite à la main droite de l'autre. Alors que si vous essayez de donner la main droite à la main gauche de l'autre personne, ça va être bizarre, ça ne va pas jouer.
Ah oui, ça va être très bizarre, ça va effectivement pas très jouer. Mais l'avantage, c'est que ce sont des exemples très concrets pour nous expliquer que les molécules ont une certaine forme qui va dans un certain sens pour pouvoir se mettre ensemble. En l'occurrence, on citait avec Katharina Fromm, elle nous citait l'exemple des acides aminés qui ont cette forme de L ou masse, c'est un L majuscule, c'est ça?
Oui, L majuscule, qui veut dire lévogyre en fait, hein, du latin lévus, qui tourne à gauche, par opposition à dextrogyre, qui tourne à droite, un mot qui vient du latin également, dexter. Alors on dit qu'une molécule est L ou D. Et tiens, puisqu'on est dans l'étymologie, le terme même de chiralité vient du grec keir, la main. Donc voilà, ça dévoile la petite histoire. Au-delà de l'origine des mots, il faut surtout retenir que les molécules du vivant ont souvent un sens, comme notre main droite et notre main gauche. Et puis vous le vivez au quotidien, hein. Chacune de vos deux mains est plus ou moins adaptée à certains gestes plutôt qu'à d'autres. Essayez de mettre votre gant gauche sur la main droite, ben c'est beaucoup moins
pratique. Oui, ce ne sera pas une grande réussite a priori. Oui.
Donc voilà, une fois que les chimistes ont découvert que les acides aminés étaient de forme L, donc de forme gauche, ils se sont demandé si toutes les molécules du vivant étaient lévogyres. Katharina Fromm.
Alors, pendant très longtemps, c'est ce qu'on a cru, que c'était effectivement cette forme L qui est prédominante. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a aussi une certaine quantité d'acide aminé D qui joue un rôle. Par exemple, il y a des bactéries qui travaillent plutôt avec des acides aminés D. Et dans notre corps, il y a aussi des phénomènes où il y a des molécules d'une certaine chiralité qui sont transformées dans l'autre chiralité et dont on ne sait pas encore très bien quels sont les rôles. Donc ça, c'est encore des sujets de recherche actuels.
Mais concrètement, ça veut dire que si je veux fabriquer des acides aminés ou bien des médicaments, je dois faire attention à la forme que je vais leur donner?
Absolument, ça c'est crucial. Donc il se trouve que dans certains médicaments, il peut y avoir des ingrédients d'une certaine chiralité qui fonctionnent très bien contre une certaine maladie ou pour un certain effet. Alors que si on met l'autre chiralité, donc l'autre molécule, ça peut être soit ineffectif ou alors même toxique, voire dangereux pour toutes sortes de choses. Prenons l'exemple de la thalidomide. Ça, c'était une molécule qui a une certaine toxicité où on a observé des malformations chez les enfants, chez les bébés, chez les nouveau-nés. Et ça, c'est un cas très très grave, justement, où la chiralité de la molécule jouait un très grand rôle.
En tant que chimiste, quand on fabrique des molécules, j'imagine qu'on met des produits dans des éprouvettes et on attend un petit peu que ça se passe. Est-ce qu'on arrive chimiquement à privilégier une forme plutôt qu'une autre ?
C'est possible, tout à fait. Alors il y a des synthèses qu'on appelle aussi sélectives justement dans la chiralité. Donc on peut synthétiser des molécules d'une certaine chiralité. On peut aussi utiliser des enzymes qui peuvent nous aider à fabriquer des molécules d'une certaine chiralité privilégiée. Et puis après, évidemment, si c'est par exemple pour faire des médicaments, il faut faire très très attention, il faut tester ces molécules-là pour savoir si elles ne sont pas dégradées dans notre corps pour former un mélange des deux formes chirales et que ça peut effectivement produire des effets négatifs sur le corps aussi. Donc aujourd'hui, pour tester les nouvelles molécules qui peuvent être chirales, justement, il faut faire beaucoup beaucoup de tests pour vérifier que ça ne devienne pas toxique à la fin.
Mais comment on fait techniquement pour distinguer une forme chirale d'une autre ?
Alors, il y a peu d'analyses qui sont spécifiques à la chiralité. Il y a une méthode qui s'appelle le dichroïsme circulaire. Ça, c'est une méthode où on va irradier en fait l'échantillon, donc la molécule, avec une certaine lumière polarisée. Et on va voir si effectivement la lumière polarisée, elle est tournée vers la gauche ou vers la droite, pour faire la différence entre les deux formes chirales, en fait. Il y a aussi la cristallographie aux rayons X, donc où on va utiliser des cristaux, par exemple, qu'on va mesurer pour déterminer aussi une configuration. C'est pas toujours évident de trouver la bonne configuration d'une molécule chirale, mais il y a des possibilités, il y a des méthodes pour trouver ça.
Les molécules du vivant ont donc un sens. Selon leur organisation, elles n'ont pas du tout le même effet sur notre corps et on appelle ça donc la chiralité.
Oui, et je vous propose de faire une petite expérience immédiatement avec des choses un peu moins dangereuses que les médicaments, je vous rassure. J'ai apporté un mortier en marbre, un joli mortier. J'y ai mis des petites graines dedans. Je vais les moudre et je vais vous les faire sentir. Voilà, c'est bien. À votre avis, qu'est-ce que ça sent ?
Ça sent bon. C'est difficile à dire. Alors je vois, j'ai le visuel en l'occurrence. Je dirais que c'est du cumin,
oui,
mais c'est pas tout à fait le même cumin que j'ai l'habitude de mettre.
Non, c'est un cumin un tout petit peu différent. Et puis là, regardez, je vous ai apporté une herbe, ça vous la reconnaissez. C'est de la menthe.
Ouais.
Et sentez cette menthe.
Je vais sentir la menthe. Alors la menthe, on connaît. Ça sent très bon aussi, ouais.
Voilà, c'est l'odeur de la menthe et l'odeur du cumin.
Oui.
Eh bien, c'est exactement la même molécule qui ont deux formes différentes. En l'occurrence, c'est la carvone, cette molécule. Dans la menthe, elle est présente sous forme L et dans le cumin, elle est sous forme D. Et voilà, on sent vraiment des odeurs très très différentes.
Ouais.
L'odeur de la menthe, c'est pas le côté frais, mais c'est vraiment cette odeur d'herbe mentholée comme ça qu'on a et le cumin. Voilà, vous venez de faire l'expérience et vous avez la preuve absolue que dans votre nez, et dans le mien aussi d'ailleurs, il y a des récepteurs qui vont être activés, tantôt par une molécule, tantôt par l'autre.
Ça signifie d'une certaine manière que c'est comme si, là, en prenant le cumin, il y a des petits L qui m'arriveraient dans le nez,
voilà,
et puis en prenant la menthe, c'est des petits
D. Carbone D.
Voilà, ça c'est les carbones D, et puis la menthe c'est les carbones L. Donc
exactement,
c'est la même molécule, mais
voilà.
Tournée dans un sens différent, ça exprime une autre odeur.
Et oui, et vous avez tout compris sur la chiralité. Le sens gauche-droite est donc très important pour la vie.
On vous démontre ce matin que la vie a un sens. Oui, on a pris tout à l'heure l'exemple de molécules qui vont tourner plutôt dans un sens ou dans l'autre. On prenait l'exemple du cumin et de la menthe qui ont la même molécule, mais selon le sens qu'elle a, elle va exprimer
des odeurs
différentes. Et ça me fait penser d'ailleurs à l'émission qu'on vous propose ce vendredi avec un grand invité, Yvan Rodriguez, un spécialiste de l'odorat justement. Et on va passer une heure. C'est fascinant, hein, l'odorat. Ça nous concerne, nous les humains, et puis aussi les animaux. Et les animaux qui peuvent sentir chez nous, notamment les maladies, le cancer. On évoquera tout cela donc ce vendredi entre 10h et 11h. Et selon le sens qu'on donne justement à ces molécules, les propriétés seront différentes. On va maintenant focaliser notre attention sur la molécule du vivant, l'ADN ou Macamis.
L'ADN qu'on trouve dans nos chromosomes, hein, là où sont contenues toutes les informations génétiques d'un organisme. Cet ADN, si vous souvenez bien, il est en forme de double hélice.
Oui, c'est un peu comme une échelle de cordes enroulée en spirale, c'est ça?
Exactement. Et l'organisation interne de cette molécule d'ADN est très importante puisque cet ADN contient tous les plans de nos cellules. Alors, ce ne sont pas des plans qui sont dessinés, mais ce sont des plans écrits dans un alphabet de 4 lettres et on y trouve toutes les instructions nécessaires pour fabriquer un petit orteil, un œil ou encore un neurone. Bref, c'est
ou
l'ADN. Oui,
si
en général plusieurs.
Ouais, bien, ouais.
Chez moi, je sais pas. J'ai quelques doutes. Mais c'est l'ADN qui indique à chacune des cellules de chaque être vivant à quoi elle sert. Et on peut voir l'ADN comme un grand livre de recettes de cuisine, sans les photos,
ouais,
évidemment.
Évidemment. Et les recettes de cuisine, c'est ce qu'on appelle les gènes, en fait, c'est ça?
Oui, ce sont eux qui renferment les indications utiles pour concocter un poil de votre nez, de l'hémoglobine qui se trouve dans votre sang. Alors voilà, à un moment donné, il va falloir lire ces recettes de cuisine pour pouvoir fabriquer chaque parcelle d'un organisme. Et pour savoir comment ça se met en place au cœur même de l'ADN, je suis allée voir Denis Duboul, professeur de génétique à l'Université de Genève et à l'EPFL.
La molécule d'ADN, elle a un sens. On peut dire que c'est comme un spaghetti, mais ce n'est pas un vrai spaghetti, parce qu'un spaghetti, vous pouvez le prendre à gauche, à droite, vous ne trouverez pas quel est le bout, vous ne pouvez pas le reconnaître. La molécule d'ADN, elle a un sens. Donc, on peut soit la lire de gauche à droite, soit la lire de droite à gauche, et la lecture ne sera pas la même.
Ça ne donnera pas les mêmes mots?
Pas du tout. Donc, la molécule d'ADN, elle a un sens de lecture. Et si vous respectez tous ces sens de lecture, vous avez un organisme normal. Si vous ne les respectez pas, ça ne marche pas. C'est toujours lu dans le même sens, mais évidemment, sur une molécule d'ADN, sur un chromosome, vous pouvez lire dans tous les sens. Autrement dit, vous pouvez avoir, sur un chromosome, peut-être 1000 unités d'information qui sont lues de gauche à droite, et 1000 unités d'information qui sont lues de droite à gauche. Ça peut s'alterner. Vous pouvez avoir un gène qui est lu de gauche à droite, puis le suivant de droite à gauche. Mais vous ne pouvez pas changer la direction. Jamais, parce qu'une unité de lecture, c'est un peu comme sur une bande magnétique, une ancienne bande magnétique de cassette. Vous pouvez lire la chanson que dans un sens. Si vous faites dérouler votre cassette de l'autre sens, ça ne marchait pas. Donc il y a un sens de lecture. C'est quelque chose qui est très organisé, mais pour laquelle il n'y a pas eu de volonté d'organisation, en fait. Une molécule d'ADN, c'est vraiment un mécanisme d'horlogerie, en fait, mais qui s'est auto-construite, et comme elle est très utile, elle a été maintenue, et comme son organisation interne est très utile, elle n'a cessé de s'auto-organiser jusqu'à atteindre des niveaux incroyables chez les animaux très performants. Ça marche toujours de la même façon, parce que quand ça ne marche pas de la même façon, ça stoppe. Quand ça stoppe, la bestiole meurt. Quand la bestiole meurt, elle ne se reproduit pas. Donc la version qui stoppe n'est pas une version qui va être pérennisée dans la population chez aucune bestiole.
Voilà donc pour l'organisation interne de la molécule d'ADN et le sens de lecture des gènes. Hein. C'est un mécanisme, voilà, on le devine, qui est complexe. Denis Dubout le disait, extrêmement bien organisé.
Oui, et c'est un véritable ballet génétique qui se met en place dès les premières minutes où un organisme commence à se former. Et ce ballet silencieux va dicter le destin, la direction que chaque cellule devra prendre. Denis Dubout.
Chez les mammifères, et en particulier chez l'homme, le début du développement est très organisé. Enfin, quand on le regarde de l'extérieur, ça veut dire que l'œuf, donc l'ovule fertilisé par le spermatozoïde, se divise exactement en deux. Et puis chacune de ces deux cellules va se diviser exactement en deux. Donc on a vraiment l'impression de quelque chose de très symétrique, très organisé. Et puis alors au bout d'une semaine, là ça commence à partir dans tous les sens. Là on ne reconnaît plus rien, il y a des morceaux qui vont aller plus vite que d'autres, etc. Mais le début a l'air bien organisé. Et puis aussi, quand à partir de l'œuf vous faites deux cellules, ces deux cellules ont exactement les mêmes potentiels, les mêmes possibilités. En fait, si vous les séparez, ces cellules, ces deux cellules, vous en coupez au milieu, c'est très facile, vous avez des vrais jumeaux. Donc chacune de ces cellules peut tout faire. Après, on commence à perdre cette capacité, bien sûr, quand on arrive à 12, 16, 30 cellules.
Qu'est-ce qui fait que tout à coup, au bout de plusieurs divisions, il va y avoir une asymétrie ?
Alors, prenez un exemple assez simple à comprendre. Si vous prenez une cellule, vous la divisez en deux, donc l'œuf, vous faites deux cellules. Bon, ces deux cellules, elles sont exposées à la même quantité de milieu extérieur. Ensuite, vous faites 4 cellules, vous faites 8 cellules, vous faites 16 cellules. Eh bien, si vous arrivez à faire un petit dessin et vous mettez 16 cellules, ça fait une sorte de petite mur. Il faut vous imaginer une framboise, un truc comme ça. Bon. Eh bien, dans ces 8 cellules, 16 cellules, il y en a en tout cas une qui sera à l'intérieur. Or, cette cellule qui est à l'intérieur, elle a un contact avec son environnement qui est différent des cellules qui sont à l'extérieur, parce qu'elle n'a aucun contact avec l'extérieur. Elle n'a que des contacts avec des cellules. On crée une asymétrie. Alors, on peut dire que peut-être certains gènes sont activés différemment si vous n'avez plus de contact avec l'extérieur, avec le milieu ambiant, etc. Donc, en fait, on crée des asymétries de façon totalement physique, chimique, naturelle, avec les mêmes chromosomes, exactement la même information génétique, des cellules tout d'un coup décident de faire un hépatocyte qui va faire une cellule de foie ou bien un cardiomyocyte, une cellule de cœur, etc. Les chromosomes ne sont pas lus de la même façon dans ces cellules différentes. Donc il y a un moment pendant le développement où une cellule se divise en deux et puis ces deux cellules filles vont lire leurs chromosomes d'une façon différente, mais les chromosomes sont les mêmes. Dans un cas, peut-être qu'on va activer 5000 gènes. Dans l'autre cas, peut-être qu'on va en activer 6800, et puis ce ne seront pas forcément les mêmes. Tout d'un coup, on crée une asymétrie. Et puis après, ces asymétries, elles sont maintenues, et puis d'autres asymétries arrivent, et puis on finit, au bout de 9 mois, à avoir un bébé.
Et c'est là qu'on réalise que le sens est donc aussi présent dès le début du développement, puisqu'à partir d'une cellule, on obtient un organisme entier. Donc l'enjeu de ce sens-là est là dès le départ.
Voilà,
en fait.
Et puis c'est le sens aussi de la temporalité, hein, de la cascade d'événements qui se mettent en place les uns derrière les autres. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné du développement, la symétrie est un passage obligé, parce que ce sont ces axes de symétrie qui nous permettront d'avoir un haut, un bas, un devant, un derrière, et même un dedans et un dehors.
Le développement se fait toujours de façon symétrique. Même chez les animaux, qui, quand on les regarde, ne donnent pas l'impression d'être symétriques. Prenez par exemple un oursin. Un oursin, si vous demandez aux gens quelle est la symétrie d'un oursin, ils vont tous vous dire c'est une symétrie radiale. C'est une boule. Bon, mais si vous regardez la larve de l'oursin, en fait, elle ressemble beaucoup à une larve de vertébré. Il y a une symétrie qu'on appelle antéro-postérieure, centro-latérale, donc une symétrie comme un petit tétard, si vous voulez, un tétard de grenouille. Ça, c'est assez facile à comprendre, en fait, parce que Le développement, c'est de mettre à l'intérieur ce qui est à l'extérieur. Il faut vous imaginer que c'est comme ça que tous les animaux se développent, par un mécanisme complexe qu'on appelle la gastrulation. Le mot est un peu compliqué, mais en gros, c'est simple. Vous prenez un ballon de football, vous le dégonflez, et puis vous essayez de remplir l'intérieur par l'extérieur. Donc vous le prenez entre vos mains, puis vous essayez de remplir. Et bien vous allez voir que vous terminez avec quelque chose qui est allongé. Et bien c'est ce qui se passe chez les animaux. C'est parce qu'on a tous quelque chose dans notre intérieur. Donc il y a un moment quand on se développe, on fait une cavité et on rentre une partie de notre extérieur à l'intérieur. Et en faisant ça, on acquiert une symétrie qu'on appelle antérieure-postérieure, parce qu'on a la tête en haut et le sacrum en bas, et surtout une symétrie centrolatérale, c'est-à-dire qu'en principe, notre partie gauche ressemble un peu à notre partie droite. En fait, cette symétrie, elle vient assez tardivement. Si vous regardez la façon dont les embryons se divisent, vous trouvez toutes les symétries possibles et imaginables. Vous avez des embryons qui se divisent de façon parfaitement cartésienne, très symétrique, on coupe comme ça, 90 degrés, 90 degrés. Il y a d'autres embryons, comme les mollusques, les escargots, qui se divisent de façon différente, avec des stratégies qui tournent, discoïdales, etc. Mais après, il faut faire un organisme. Une fois que vous avez du matériel, une fois que vous avez suffisamment de cellules, il faut faire un organisme. Et pour faire un organisme, tous les animaux passent au travers de ce mécanisme de gastrulation. Et la sortie de ce mécanisme de gastrulation vous donne une symétrie. Donc même les bestioles les plus bizarres, une fois dans leur vie, ont une symétrie. Prenez les tuniciers, qui sont des urochordés. C'est des espèces de tubes attachés sous la mer, attachés dans l'eau à un rocher. Eh bien, avant d'être un tube attaché dans l'eau, c'était des petites larves qui avaient une symétrie bilatérale. Une fois dans leur vie, généralement, tous les animaux multicellulaires ont eu ou ont une symétrie bilatérale. C'est une stratégie générale qui a très bien marché.
Sur le sens de la vie, c'était Denis Duboul, professeur de génétique à l'Université de Genève et à l'EPFL, dossier préparé par Oumakamis.